Daniel. Lucie s'est échappée peu avant 3 heures. J'aurais dû le voir venir. Elle avait commencé la journée remarquablement calme. À 8 heures, elle avait mangé des Cheerios secs sans lancer le bol vers ceux qui passaient. À 8h30, elle était discrètement sortie de sa chambre, le temps de chipper une petite voiture que Benny avait laissée traîner dans le couloir. Elle l'avait coincée sous son menton et avait détalé à 4 pattes dans un coin de sa chambre. Ensuite, elle avait posé la Hot Wheels par terre et s'était mise à lui donner des coups de patte comme un chat qui joue. Benny avait pleuré en découvrant que la voiture avait disparu, mais s'était arrêtée en la voyant au pied de la folle toute nue qui souriait. Elle l'avait vu qui la regardait et s'était simplement remise à jouer au lieu de lui jeter du caca à la figure. Très contente de ce progrès, j'ai décidé de tenter quelques soins d'hygiène corporelle. Nous ne forçons pas nos patients à se doucher. Nous ne les forçons pas à manger, à se laver les dents, ni même à s'habiller. Nous comprenons que certains de ces enfants, en raison de leurs troubles sensoriels, perçoivent le jet de la douche comme des milliers de piqûres d'épingles. Nous comprenons que certains de ces enfants, en raison de diverses compulsions, ne peuvent manger que des aliments congelés, ou réduits en poudre, ou jaunes, ou sous emballage. Nous comprenons que certains de ces enfants, en raison de leurs difficultés relationnelles, ne peuvent pas passer dans le couloir sans chercher la bagarre. Les questions d'hygiène corporelle sont compliquées. Les repas sont compliqués. Le simple fait de se lever le matin est compliqué. Alors nous sommes souples. Voilà notre programme. Nous aimerions que tu le suives, mais nous sommes prêts à dialoguer avec toi. Dis-nous de quoi tu as besoin. Ensemble, nous pouvons faire en sorte de le réaliser. Certains parents nous détestent. Ils considèrent notre service comme une simple colonie de vacances où l'on se plie aux moindres caprices de leur enfant caractériel. Évidemment, la moitié de ces parents sont aussi traumatisés que les enfants. Ils ont reçu des coups de pied, ils se sont fait battre, mordre, crier dessus ou agresser verbalement par leur propre enfant pendant des années. Il se peut que pour la fête des mères, leur enfant de 10 ans ait dessiné « Maman » avec un poignard dans le ventre et signé « Crève connasse ». Alors, quelque chose en eux voudrait que leur fils doive enfin répondre de ses actes, ou que leur fille soit réduite en chair à pâté. Nous sommes des professionnels. Nous devrions obliger chaque enfant à marcher droit. Mais nous ne le faisons pas. Nous laissons les enfants regarder la télé. Nous leur apportons des Game Boy, nous jouons à des jeux de société avec eux. Nous leur permettons de faire du roller dans le couloir. Nous sommes une unité de soins intensifs. Notre but est de réduire l'agitation d'un enfant jusqu'à ce qu'il puisse enfin passer une journée sans exploser. Ensuite, quand il est gérable, nous espérons recueillir sur son comportement des informations qui seront précieuses pour la prise en charge à long terme. Avec chacun, il y a 2 questions auxquelles nous essayons de répondre. Que se passe-t-il d'indésirable dans la tête de cet enfant, par exemple dans les cas de distorsion cognitive? Et que ne se passe-t-il pas dans la tête de cet enfant qui serait désirable, par exemple dans les cas de déficience cognitive? En répondant à ces 2 questions, on en apprend beaucoup sur lui. 24 heures s'étaient écoulées et j'en avais encore beaucoup à découvrir sur Lucie. J'ai commencé par remplir un grand seau d'eau que j'ai emporté dans sa chambre. Je ne l'ai pas regardée quand je suis entrée, j'ai fait absolument comme si elle n'était pas là. J'ai posé le seau et je lui ai tourné le dos. J'ai compté jusqu'à 10. Comme elle ne m'agressait pas, je suis passée à la 2e étape. J'ai sorti une petite éponge de ma poche, je l'ai plongée dans l'eau et j'ai commencé à nettoyer le mur le plus proche, toujours sans regarder Lucie. Si l'attention était chez elle un facteur déclenchant, alors mon travail consistait à ne lui en prêter aucune. Au bout 1 minute, je me suis mise à fredonner. Une mélodie grave. Certains enfants répondent bien à la musique rythmée. Pour Lucie, je me demandais. Comme elle ne réagissait toujours pas, je m'y suis mise pour de bon. J'ai enlevé les excréments et le sang des 4 murs, après quoi j'ai repris mon seau et je me suis éclipsée. Le verdict allait tomber. Lucie allait-elle laisser la pièce en l'état, ou bien allait-elle éprouver le besoin de saccager de nouveau sa chambre, de violer son espace personnel comme elle semblait ressentir le besoin de se violer elle-même. 20 minutes s'étant écoulées sans drame, je lui ai apporté son déjeuner. Des légumes coupés en morceaux, un bâtonnet de fromage, du pain frais, une tasse d'eau. Je suis restée dans le couloir d'où je pouvais surveiller son reflet dans la demi-sphère argentée du plafond sans être vue. Lucie s'est d'abord attaquée au pain. Elle l'a pris entre ses mains et l'a comprimé pour en faire une boule, puis l'a posé par terre et l'a regardé reprendre lentement du volume. Ensuite, elle l'a encore comprimé jusqu'à ce qu'il forme une balle assez compacte pour la faire rouler à coups de patte sur la moquette. Elle a joué un moment avec sa nourriture, satisfaisant son alter ego félin. « Pourquoi un chat ?» me demandai-je. « Qu'y avait-il chez les félins dont elle pensait que cela la protégerait ?» Elle a finalement pris la boule de pain entre ses mains et l'a mangée. Ensuite, elle s'est léchée les mains et a lapé un peu d'eau dans la tasse. Le fromage a connu le même sort que le pain. Elle n'a pas mangé les légumes, mais les a cachés sous son matelas. Cela ne m'a pas surprise. Beaucoup d'enfants font des réserves de nourriture, par comportement compulsif ou parce qu'ils ont souvent connu la faim dans le passé. J'ai provisoirement laissé les légumes, ne serait-ce que pour voir ce qu'elle en ferait plus tard. Une demi-heure après, je suis entrée dans la chambre pour reprendre son assiette et sa tasse. Toujours en lui tournant le dos. Aucune manifestation. On progressait. De retour à la cuisine, j'ai rempli un petit saladier d'eau chaude et trouvé une éponge propre. Cette fois-ci, quand je suis rentrée dans la chambre de Lucie, je me suis assise de côté par rapport à elle. Elle se trouvait près de la fenêtre et étudiait un grand carré de lumière sur le sol de sa chambre, dessiné par le soleil. Elle écartait les doigts dans le rayon, observait l'ombre qu'il projetait. Puis elle s'est tournée vers la fenêtre, a fermé les yeux et laissé le soleil éclairer son visage. L'espace d'un instant, elle a eu l'air presque heureuse. Je lui ai donné du temps. Quand elle a finalement paru se lasser du soleil et des ombres, j'ai pris l'éponge, je l'ai trempée dans le saladier et je l'ai tenue au-dessus de mon bras nu. J'ai fait tomber quelques gouttes, laissé l'eau dégouliner. Je voulais que Lucie remarque ce jeu nouveau et intrigant. J'ai joué un moment. Je laissais tomber de l'eau ici ou là. Je dessinais des formes sombres sur mes vêtements, au sol, là où j'en avais envie. C'est toujours utile d'avoir une âme d'enfant quand on travaille avec des enfants. Au bout d'un certain temps, j'ai senti que Lucie m'observait. Elle ne voulait pas s'approcher, mais elle était curieuse. Alors j'ai fait durer ça encore 5 minutes. Je me suis éclaboussé le visage, j'ai fait couler de l'eau sur mes cheveux. Ensuite, je me suis levée et je suis sortie en laissant l'eau et l'éponge. Il aurait été tentant de rester regarder. Mais c'était une enfant, pas une bête de foire. Alors je me suis éloignée d'un pas décidé. Un de nos patients les plus récents, Georges, a accouru vers moi. J'ai accepté de faire une partie de domino avec lui. Ensuite, travaux manuels avec Amy, une fillette de 12 ans admise pour tentative de suicide. Toute repliée sur elle-même, elle dessinait un ciel noir avec de la pluie noire. J'ai suggéré qu'elle ajoute de la couleur. Alors elle a fait des points rouges par-dessus le noir. Maintenant, le ciel saignait. Je l'ai serrée dans mes bras et je suis retournée au bout du couloir. J'ai trouvé Lucie de nouveau assise dans le rayon de soleil. Elle avait le saladier d'eau à côté d'elle, l'éponge à la main. Son visage était enfin propre. Elle avait enlevé les traces d'excréments, mouillé ses cheveux broussailleux pour les ramener en arrière. Assise, elle tendait son visage propre vers le soleil et la petite courbe de ses lèvres m'a brisé le cœur. Au contrôle suivant, elle avait disparu. Le saladier vide et l'éponge étaient soigneusement posés dans le rayon de soleil. À part ça, la pièce était vide. L'oiseau s'était envolé. Au début, je ne me suis pas inquiétée. Notre service est une unité fermée, donc Lucie était là, quelque part. Il suffisait de la trouver. Je me suis rapprochée de l'éducateur chargé des contrôles, c'est-à-dire de vérifier toutes les 5 minutes où se trouvait chaque enfant. En l'occurrence, c'était Greg, qui n'avait donc cessé de tourner dans le service pendant la dernière heure. Il n'avait pas vu Lucie, qui était l'exception à notre règle des 5 minutes. Le soignant à qui elle avait été confiée, à savoir moi-même, était censé noter toutes les 20 minutes l'endroit où elle se trouvait. Greg a fait passer le message et bientôt nous nous sommes tous lancés dans une chasse à la Lucie. Les enfants se sont joints à nous. C'était un jeu de cache-cache à grande échelle et ceux qui étaient chez nous depuis un moment connaissaient la manœuvre et nous aidaient volontiers. Dans la mesure où il n'y avait pas de caméra dans le service, nous nous servions des demi-sphères au plafond pour y chercher le reflet de Lucie. D'après ces sphères, elle ne se trouvait ni dans le grand couloir, ni dans les dortoirs, ni dans la salle réservée aux visites des familles. Alors nous avons sorti l'artillerie lourde. Nous avons exploré les placards, les armoires, les tables de chevet, les salles de bain, les toilettes. Les cuisines étaient fermées à clé, mais nous avons vérifié quand même, à tout hasard. Les locaux de l'administration étaient fermés à clé, mais nous avons fouillé de fond en comble ce dédale de petits bureaux. À 3h15, Lucie était toujours introuvable et le personnel, sans parler de certains enfants, commençait à s'inquiéter. Greg s'est occupé des gamins, c'était l'heure du goûter. Le personnel s'est dispersé, chacun retournant à ses occupations pour faire tourner le service. Karen, la surveillante, m'a prise à part. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ?
À 2h15.
Que faisait-elle ?
Elle était assise dans un rayon de soleil, elle faisait des ombres avec ses doigts.
Karen a paru étonnée, intriguée.
Quand avez-vous remarqué qu'elle avait disparu ?
J'ai eu un instant d'hésitation.
3h15.
Karen m'a lancé un regard.
Ça fait 30 minutes, Daniel, pas 20.
Nous avions convenu que quelqu'un contrôlerait toutes les 20 minutes. Comme je n'avais pas de bonne excuse, je me suis contentée d'acquiescer. Karen m'a dévisagée. Elle avait travaillé pratiquement toute sa vie auprès d'enfants en difficulté et elle avait un regard pénétrant. J'ai compris qu'elle réalisait enfin quel mois et quel jour de l'année nous étions, qu'elle faisait le rapprochement que je croyais qu'elle aurait fait depuis une bonne semaine. C'est le sort de l'unique survivant. On est toujours rattrapé par la date anniversaire. Est-ce que Lucie est un cas trop lourd pour vous ? M'a-t-elle demandé sans ménagement.
Non.
Nous avons toujours eu la volonté de travailler avec vous, Daniel, m'a-t-elle expliqué sèchement. Mais il faut que vous ayez la volonté de travailler avec nous, vous comprenez ?
Ce n'est pas trop lourd, ai-je répondu d'une voix plus ferme.
Mais Karen hésitait toujours. Elle a fini par soupirer, passer à autre chose.
Est-ce que Lucie est encore toute nue ?
Pour autant que je sache. Alors elle n'a pas pu aller bien loin. Karen a pris la décision de prévenir la sécurité du centre hospitalier. L'établissement a été entièrement bouclé. J'aurais voulu rentrer sous terre. J'avais perdu ma patiente, j'avais enfreint le protocole dans un service où les infractions au protocole sont inadmissibles. Or, si ma vie privée n'avait rien de glorieux, je prenais mon travail au sérieux. J'étais une infirmière dévouée. Certains jours, j'étais même une infirmière remarquable. Apparemment, ce n'était pas le cas aujourd'hui. Nous avons organisé une réunion de service en urgence et au pas de charge, Karen a attribué des étages à chacun de nous. La sécurité ratissait également le bâtiment. On m'a confié le rez-de-chaussée et le premier étage. L'estomac chaviré, je suis descendue. Où Lucie serait-elle susceptible d'aller ? Que ferait-elle ? C'est là que j'ai eu une idée. J'ai filé vers le solarium de l'hôpital. 10 minutes plus tard, j'avais retrouvé Lucie. Elle se trouvait derrière un palmier en peau, sous un soleil ardent, roulée en boule comme un chat et profondément endormie, la tête posée sur ses mains jointes. Au cours de son équipée, elle avait trouvé une marinière de bloc opératoire verte qu'elle portait à présent comme une robe. Elle se confondait presque avec le sol et ses cheveux bruns cachaient son visage fraîchement nettoyé. Avec mon talkie-walkie, j'ai indiqué au 7e étage que je l'avais retrouvée. Et ensuite, parce que je ne l'avais jamais vue dormir d'un aussi bon sommeil, je me suis assise par terre et j'ai attendu. Greg est descendu, il s'est assis à côté de moi. Dure journée, a-t-il dit au bout d'un moment. Lucie va bien, c'est l'essentiel. Pas de chance qu'elle soit sortie. Elle a dû franchir les portes en douce au moment où un visiteur entrait ou sortait. Il a dit ça d'un air détaché, mais nous savions tous les deux qu'il y aurait une enquête. C'était plus que de la malchance que Lucie ait réussi à franchir 2 doubles portes fermées à clé. Une malchance telle que cela ne s'était jamais produit pendant toutes ces années où j'avais travaillé ici, et que je ne voyais toujours pas comment une gamine de 9 ans toute nue avait pu accomplir cet exploit. Des têtes allaient tomber. La mienne, peut-être. J'étais inquiète. Il était hors de question que je perde ce boulot. Je l'adorais. Surtout à cette période de l'année où, Karen avait raison, je n'étais pas en pleine possession de mes moyens et où il me gardait quand même. Greg m'a caressé la joue. Une fois n'est pas coutume, je n'ai pas bronché. Greg et moi étions collègues depuis des années. Il était beau, grand, sportif, baraqué.
Un vrai mur d'escalade pour les petits garçons qui avaient un trop-plein d'énergie à dépenser. Il s'habillait comme un entraîneur de foot et possédait la plus belle voix grave du service. Même les enfants les plus difficiles se taisaient, rien que pour entendre son timbre. Cela faisait 2 ans qu'il m'invitait à sortir avec lui. Je n'avais jamais dit oui. Jamais il n'avait renoncé à m'inviter. J'ignorais comment un type pouvait encaisser autant de refus et en redemander, mais c'était peut-être lié à son métier. Alors je me suis retrouvée à penser au shérif Wayne. Mais je n'ai pas voulu pleurer, ça aurait été ridicule. Lucie a fini par s'étirer. Elle a levé la tête, cligné des paupières, nous a regardés avec des yeux de hibou. Vite, avant qu'elle soit suffisamment réveillée pour résister, Greg et moi l'avons coincée entre nous et entraînée vers les ascenseurs. Trop d'idées se bousculaient encore dans ma tête. Le fait que c'était seulement dans 3 jours. Que cela ne devrait plus avoir d'importance, une date sur le calendrier, un jour qui revenait tous les ans. Et je savais que Karen avait compris pourquoi je me donnais un tel emploi du temps, pourquoi je faisais des journées aussi longues. Parce que la date avait bel et bien de l'importance. Parce que cela avait été toujours le cas et que d'ici 24 heures, il allait falloir que je disparaisse. Ce n'était pas un spectacle pour les enfants. Ce n'était pas un spectacle pour les adultes. Et ce n'était vraiment pas un spectacle pour un type bien comme Greg qui aurait envie de me prendre dans ses bras et de tout arranger. Une fois par an, je n'avais pas envie que tout s'arrange. Une fois par an, j'aimais attiser ma colère. Parce que je suis la seule survivante et que ça me met toujours en rogne. L'ascenseur nous a remontés au 7e. J'ai présenté mon badge pour entrer dans le service. Karen nous attendait, mais pas seule. À côté d'elle, une blonde aux cheveux bouclés et un homme grisonnant en costume anthracite. Tous deux montraient leur plaque de police. « Daniel », a dit Karen. Et j'ai su, dès cet instant, que tout avait recommencé.